BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Sept jours dans le monde avec Laurence Nardon qui dirige le centre États-Unis de l'IFRI. Avec nous également le journaliste américain Eduardo Cué et Philippe Moreau-Desfarges, chercheur aussi à l'IFRI, qui vous propose la géopolitique pour les nuls, l'histoire du monde pour les nuls. Donc depuis vendredi soir, Donald Trump est à la tête de la première puissance mondiale avec déjà un premier décret signé contre l'Obamacare. Alors le protocole de l'investiture avait été respecté avec des parades à Washington, le bal, plusieurs bals d'ailleurs, prestation de serment et le discours inaugural America First.
À partir d'aujourd'hui, dorénavant, notre territoire sera guidé par une nouvelle vision. À partir de ce jour, l'Amérique d'abord.
Nous rendrons le pouvoir au peuple. Voilà ce qu'il disait. Donc, vendredi soir, c'est votre journée, votre célébration. Les États-Unis sont votre pays. Ce 20 janvier 2017, on s'en rappellera comme le jour où le peuple à retrouver le pouvoir. Nous avons enrichi d'autres pays, nous avons subventionné d'autres pays. L'Amérique va recommencer à gagner comme avant. On va rapatrier nos rêves. On va désormais acheter américain, embaucher américain. Laurence Nardon, c'était un discours donc assez peu conventionnel pour un président américain qui arrive. Vous les avez suivis, toutes ces investitures, vous les avez étudiées, bien entendu. Elles se distinguaient, bien sûr, celles de Trump.
Oui, elle se distingue sur le fond par son discours qui est quand même extrêmement nationaliste, extrêmement agressif, avec évidemment une partie à la fin où il tend la main et propose la réunion de tous les Américains. Mais enfin, c'était un projet unificateur qui quand même se limitait strictement au peuple américain à l'intérieur des frontières. Donc ça, c'était vraiment extrêmement frappant et j'ai trouvé pour ma part inquiétant, parce que c'est pas un message très positif. Sur la cérémonie elle-même, elle tranchait également avec toutes celles qu'on a pu voir il y a 4, 8 et même 12 ans. Parce qu'il y avait assez peu de monde. Les Washingtoniens qui n'ont pas du tout voté pour ce candidat, 4% pour Trump à Washington, n'étaient pas très présents dans les rues. Ceux qui étaient présents dans les rues, il y avait quand même 800 000 personnes, mais 2 millions pour Obama en 2009. C'était des Américains venus du Middle West. On a vu pas mal d'interviews de gens qui avaient fait beaucoup de routes pour venir. Et puis, dernier point, très peu de stars dans cette cérémonie. Très peu de, et pas de Aretha Franklin, pas de personnes comme ça.
Pas de Meryl Streep.
Pas de Meryl Streep non plus. Mais ce qui est bien normal, puisque comme Trump a porté un discours très anti-élite pendant toute sa campagne, ces élites incluent les élites culturelles, Hollywood, etc., qui ont boudé la cérémonie.
Ouais. Est-ce qu'il y avait du... Allez, vous avez étudié vraiment l'histoire des États-Unis de 1789 jusque maintenant, enfin même avant, bien sûr, 1776, l'indépendance. Mais disons, allez, si on reprend quelques discours d'intronisation des présidents américains, est-ce qu'on peut dire qu'il y avait du Roosevelt quand il parle des oubliés? Est-ce qu'il y avait du Nixon quand il parle de la majorité silencieuse Trump? Est-ce qu'il y avait du Reagan quand Trump, également vendredi soir, parlait de restaurer la grandeur de l'Amérique?
Oui, il y a cette tradition du... la tradition de la grandeur de l'Amérique, elle est portée par tous les présidents. Il y avait plutôt du Andrew Jackson, qui est le président de 1829 à 1834, si je ne me trompe pas, qui était le premier président véritablement populiste des États-Unis, qui voulait lui aussi rendre le pouvoir au peuple, qu'on appelait à l'époque the mob, la populace, dans lequel j'ai vu plus de similarités avec ce qu'a dit Trump hier.
Ouais, Trump, c'était donc vendredi. Ça donne une idée, Philippe Moreau-Desfarges, de la façon dont il va gouverner le pays, diriger le pays, gouverner un peu comme il a fait campagne?
Probablement, mais enfin, il va gouverner, il y a des équipes autour de lui. Cela dit, ce qui est très frappant, c'est d'un côté ce discours extrêmement agressif, America First, il faut regrouper les Américains, et le premier décret qu'il signe, c'est pour mettre à terre l'Obamacare, qui était un effort pour renforcer la solidarité entre les Américains. Il y a quand même une grande contradiction. Alors, pour revenir aussi à la différence, c'est que Trump est un homme d'affaires. N'oubliez pas que c'est un homme qui n'a jamais été élu. La plupart des présidents précédents avaient une carrière politique. Lui n'a pas eu de carrière politique. C'est là où ça détonne par rapport à avant. Mais je crois qu'il faut retenir une chose, c'est que quand un homme parle, il est sincère. Trump est sincère. Donc, quelque part, il fera ce qu'il dit.
Ouais, discours.
Si les institutions le permettent.
Alors on verra justement comment est-ce qu'il va diriger, est-ce qu'il va se heurter ou pas à des contre-pouvoirs. Discours coup de poing, Eduardo Cué, où l'on dépeint une Amérique quelque part assiégée par la criminalité, par la décadence, par la main de l'étranger, notamment peut-être les investisseurs, les usines étrangères aussi. Hein. Pas de main tendue aux dizaines de millions d'Américains qui n'ont pas voté pour lui. D'habitude, un discours d'investiture, ça se veut rassembleur, consensuel, on n'y était pas.
Pas du tout. On nous avait annoncé un discours philosophique. Faut dire que dans la tradition de ce discours, qui est quand même un discours extrêmement important pour un nouveau président, il y a des envolées lyriques, il y a de la philosophie, il y a une vision pour l'avenir, un optimisme pour les États-Unis, mais aussi pour le monde. On peut se rappeler le discours de John Kennedy en 1960, écrit par Theodore Sorensen, un discours magnifique, dans la façon dont ça a été écrit et dit. Et là, pas du tout, c'était un discours de campagne. Et en plus, en écoutant Trump, on se dirait que l'Amérique est par terre, que rien n'a été fait depuis 40 ans, qu'il y a la pauvreté partout, qu'il y a la violence partout, etc. Tandis que ce n'est pas tout à fait vrai. Et donc, un discours très négatif, avec très peu de vision, très peu de philosophie. Je ne pense pas que les gens ont été très touchés par ça.
Philippe Moreau Desfarges.
Oui, non, tout est étonnant dans cet homme, c'est vrai, dans son côté agressif. Donc d'ailleurs, les images que vous avez diffusées sont aussi des images un peu d'affrontement civil assez dur. N'oubliez pas, ce qui est vrai, ce qu'il faut rappeler, c'est que les présidents des États-Unis sont souvent élus dans des conditions difficiles. Obama, je vous rappelle, lorsque Obama a été élu, il y avait beaucoup de haine autour de Obama. Et il y aura beaucoup de haine autour de Trump. Donc, la bataille est en train de commencer.
Laurence Nardon, ce que dit Philippe est intéressant. Hein. Il y avait de la haine autour d'Obama, même s'il y avait plus de monde peut-être dans les rues, mais il y avait de la haine, bien entendu, et il y en a eu toujours, encore récemment, dans les propos des républicains, de certains républicains. Il y a de la haine aussi vis-à-vis de Trump, qui a été élu, on le rappelle, par les Américains, bien entendu. Est-ce que c'est un sentiment qui se développe, cette violence, ce ressentiment?
Alors ça fait effectivement plusieurs dizaines d'années qu'on dénonce une grande polarisation, c'est le mot officiel, une grande polarisation dans la politique américaine entre les républicains et les démocrates qui s'éloignent. Il y a beaucoup moins de modérés, beaucoup moins de centristes aujourd'hui aux États-Unis et qui ont... Deux groupes, donc, qui ont véritablement une vision absolument irréconciliable de ce que doit être l'Amérique. Mmh. Entre des démocrates qui sont très multiculturalistes, très ouverts à l'étranger, très politiquement corrects, disent leurs détracteurs, et de l'autre côté, des républicains qui ne voient pour eux que le verre à moitié vide à propos de l'Amérique, c'est-à-dire un pays qui a perdu sa grandeur, qui est dans la décadence, etc. Alors là, il faut peut-être juste diviser chez les républicains. On va avoir les conservateurs, qui sont conservateurs pour des raisons morales, sur les questions de société, comme l'avortement, par exemple. Ces gens-là sont très présents dans le cabinet de Trump. Et puis, cette fameuse classe moyenne, celle qui a élu Trump, qui donc a voté pour un républicain, qui n'est pas véritablement conservatrice, mais qui est plutôt en colère. Donc c'est une base très populiste. Ça n'est pas exactement le même positionnement que les conservateurs.
Ouais, je comprends. Philippe,
non, la question, c'est pourquoi Trump a été élu président des États-Unis. Et on se demande si, au fond, Trump n'est pas le premier président d'une Amérique qui, en fait, doute d'elle-même. C'est-à-dire d'une Amérique qui n'est plus tout à fait la première, d'une Amérique qui est rattrapée par la Chine, d'une Amérique qui ne pèse plus aussi lourd dans le monde. Et au fond, cette réaction America First, dans le siège, c'est-à-dire du Tea Party, c'est-à-dire puisque le monde ne nous aime pas, eh bien, nous allons nous fermer au monde. Et c'est vrai que c'est une rupture majeure par rapport à la politique américaine, au moins depuis Franklin Roosevelt, au moins depuis la Seconde Guerre mondiale.
Ouais, Trump qui, dès le début de son discours d'investiture, hein, tensait les élites, hein, cette minorité qui longtemps en a profité au détriment du peuple. Discours quand même qu'il prononçait devant quatre présidents. Il y avait Jimmy Carter, il y avait George W. Bush, il y avait évidemment Bill Clinton, il y avait Barack Obama. Et malgré tout, durant le déjeuner, hein, il rendait hommage au couple Clinton présent.
J'ai été très honoré. Très, très honoré quand j'ai su que le président Bill Clinton et la secrétaire d'État Hillary Clinton venaient aujourd'hui. Et je pense que c'est important de le dire et je voudrais que vous vous leviez.
Thank
Et honnêtement, il n'y a rien que je puisse dire de plus, parce que j'ai beaucoup de respect pour ces deux personnes, donc merci d'être là.
Ouais, un respect pour ces deux personnes, Hillary Clinton, souvent qualifiée de crapule hein, durant la campagne électorale, la campagne présidentielle. Philippe Moreau Descartes.
Attendez, le plus drôle, c'est que Bill Clinton, c'est l'anti-Trump. Bill Clinton, c'est le conciliateur, c'est le négociateur, c'est l'homme souriant.
C'est l'homme de l'appareil,
Attendez, Bill Clinton a été un très bon président. Hein. Il a fait beaucoup de bonnes choses. Et on peut ramener cette photo de la Maison Blanche où on voit Bill Clinton entre le premier ministre israélien et Yasser Arafat, c'est une photo magnifique. Trump ne fera pas ce genre de choses.
Ah, attendez, on va voir, évidemment. On verra s'il faut lui donner ou pas sa chance, hein, évidemment. On a plutôt tendance à le condamner à l'avance. Je ne sais pas, hein, là-dessus, j'avais absolument pas d'avis. Oui, vous me disiez, Edouard, tu es journaliste américain.
Il faut dire que Trump ne cède pas lui-même. Hein. Je pense qu'il est son pire ennemi, finalement, parce qu'on attendait après la campagne qu'il change un peu pendant la transition. Ça n'a pas été le cas. Maintenant, on verra bien. Ceci dit, je trouve qu'il y a un peu d'hystérie aux États-Unis contre Trump. Il y a effectivement de la haine, c'est clair. Tandis qu'avec Obama, c'était du racisme, qu'il ne voulait pas dire son nom. Mais avec Trump, c'est carrément de la haine. Et je trouve que la presse américaine, la presse dite libérale de la côte Est, est devenue presque hystérique vis-à-vis de Donald Trump. Donc il faut lui donner sa chance. Ceci dit, il y a des raisons pour s'inquiéter, ça c'est clair.
Alors justement, tiens, sa méthode de gouvernement, et on l'a vu, donc à l'issue de la cérémonie d'investiture, à l'issue donc de la parade, des bals, il a commencé donc à signer un premier décret donc pour démanteler l'Obamacare. D'autres devraient suivre ce lundi pour construire le fameux mur, pour faire un décret contre, pour faire en sorte de pouvoir renvoyer des immigrés clandestins. Le climat, bien entendu, enfin en tout cas la COP21 qui est dans la ligne de mire donc de Donald Trump. Ça va être ça sa méthode, Laurence Nardon, c'est aller vite, s'affranchir quelque part du Congrès, signer des décrets, démanteler tout ce qu'a fait Obama.
Alors oui, sur sa méthode, effectivement, il a annoncé qu'il voulait aller vite, ne pas s'embarrasser de débats très longs avec le Congrès, enfin agir en homme d'affaires, comme disait Philippe. Après, sur le fond, ce qu'il va faire reste un peu flou quand même, parce que à la fois il a dit dans sa campagne beaucoup de choses, annoncé beaucoup de mesures qui allaient dans le sens de la défense de ces fameuses classes moyennes. Donc il a annoncé à certains moments, par exemple, une fiscalité plus juste pour ces classes moyennes, avec des impôts plus lourds pour les très riches. Il a annoncé aussi un programme d'infrastructure très très important pour remettre en route les aéroports, les routes,
les
hôpitaux,
autoroutes, etc.
Dans le pays. Oui, mais un programme extrêmement cher. Je m'arrête à ces deux exemples.
1 000 milliards de dollars.
Il y en a beaucoup d'autres. Mais on ne sait pas exactement ce qu'il va faire parce que à d'autres moments, il a pu dire d'autres choses. Il y a un certain flou, un certain nombre de contradictions dans ses déclarations à lui. Et puis ensuite, dans ses fameux secrétaires qu'il a commencé à désigner.
Oui,
commencent à être confirmés par le Sénat.
Il y en a deux qui ont été confirmés juste après, dans la soirée de l'investiture, vendredi soir. C'est le général Mattis à la Défense et John Kelly, donc, à la Sécurité intérieure.
Voilà. Et donc, dans toute cette équipe, on voit bien que les personnes nommées ne sont pas du tout sur la même ligne. Il y a, par exemple, des conservateurs fiscaux qui veulent que les taxes, les impôts ne pèsent pas sur les très riches. En matière de politique
internationale,
étrangère,
on en parlera, bien sûr.
Aussi. Et donc, c'est assez mystérieux. Enfin, on ne peut pas vraiment être sûr de ce qu'il va faire réellement.
Alors, qui aura la main, justement, qui va diriger le pays, Edouard Ocué?
Ah, ça, c'est le grand problème, parce qu'il y a des contradictions flagrantes dans son équipe. Il y a ceux qui sont très durs, il y a d'autres qui sont beaucoup moins durs. Ce qui a été passionnant pendant les auditions du Sénat, c'est que ces candidats pour secrétaire d'État de la Défense, même l'ambassadrice
Nations Unies,
sont complètement contredits à Donald Trump, que ce soit sur la Chine, sur la Russie,
sur l'OTAN.
Donc il y a une contradiction flagrante. Et on peut s'attendre à des batailles internes très très fortes, parce qu'on voit mal comment tout ce monde peut cohabiter. À un moment donné, il va falloir trancher. Qui va trancher, ça on ne le sait pas.
Et ça va être quoi les contre-pouvoirs, ce que vous êtes tous en train de dire, et vous et puis d'autres, en disant, voilà, il n'a pas d'expérience, il n'a jamais eu de mandat politique. Son équipe également n'a pas beaucoup d'expérience politique, parce qu'il y a beaucoup de businessmen, des hommes d'affaires, des millionnaires, des milliardaires, etc. Il va peut-être faire n'importe quoi, c'est ce qu'on entend. Il y a des contre-pouvoirs, c'est quoi? C'est Congrès, Cour suprême, son vice-président Mike Pence. Alors attendez, Édouard Ocué puis Laurence Nardon, tout le monde prend la parole.
Non, je veux dire qu'on a beaucoup critiqué les gouvernements qui l'a nommé, qui sont des milliardaires, etc. Mais moi, par exemple, Tillerson, qui sera le secrétaire d'État, il n'a pas d'expérience politique, quoique il a une très grande expérience de la négociation.
Grand carnet d'adresse, c'est l'ancien patron d'Exxon.
Il connaît très bien le monde, et c'est pas parce qu'il n'a pas été au Congrès qu'il ne sait pas, à mon avis, c'est pas un si mauvais choix que ça. Pour la secrétaire de la Défense, il connaît très bien.
Général Mattis, en effet, qui était général il y a encore assez peu de temps, et d'ailleurs, on va voir si, bon, il a été validé, parce que normalement, il n'aurait pas dû venir à ce poste-là, vu qu'il était général encore, dans un passé récent. Voilà. Laurence Nardon.
Oui, je suis d'accord avec vous. Il y a des personnages plus dangereux dans l'équipe, comme par exemple Michael Flynn, qui est son conseiller pour la sécurité nationale, National Security Advisor, le poste qu'avait Kissinger dans les années 70. Et Michael Flynn, qui est un complotiste très anti-islam, un personnage qui peut, à mon avis, être assez dangereux.
Quelle sera l'influence de ce courant, justement, dans les actions, les actes que fera Donald Trump?
Ça reste à voir. Si l'influence de ce Michael Flynn est forte, ça peut entraîner le pays dans des attitudes extrêmement agressives. Mais justement, vous parliez de contre-pouvoir. Moi, je pense que ce qu'il faut craindre, c'est que dans son équipe rapprochée, dans l'exécutif, donc ses secrétaires et ses conseillers, il ne continue à faire ce qu'il a fait pendant sa campagne avec son équipe de campagne et auparavant dans son émission The Apprentice, c'est-à-dire une équipe qui tourne beaucoup, avec beaucoup de conflits intérieurs, de drames et de personnes qui partent en claquant la porte. On l'a vu pendant la campagne, on l'a vu à nouveau pendant la transition. Et donc, s'il a une équipe exécutive autour de lui, où les gens passent leur temps à se disputer comme dans un reality show, ça va pas être bon. Les autres contre-pouvoirs, c'est bien évidemment le Congrès. Alors, le Congrès qui est républicain dans les deux chambres. Mais attention, parce que je pense que ce soit au Sénat ou à la Chambre des représentants, il n'aura pas un soutien à 100%. C'est-à-dire que les Républicains ne l'aiment pas tellement, finalement. C'est pas leur candidat au départ.
Bien sûr.
Et donc, ils lui obéiront s'il leur fait peur. Il est très bon pour faire peur. C'est un personnage extrêmement agressif qui n'hésite pas à blâmer les gens, à insulter leurs femmes, etc. On l'a vu pendant la campagne. Il a aucun surmoi.
On l'a vu pendant la campagne et pendant l'investiture où il avait le masque en permanence avec les traits extrêmement tirés, sans esquisser le moindre sourire, ce qui tranchait vraiment avec Obama. Quelque part qui partait, qui s'en allait, qui était souriant, qui était radieux. Même Madame Clinton, qui aurait eu des raisons évidemment d'être déçue, souriait dans la tribune officielle vendredi soir.
Oui, il avait son visage un peu fermé. Et donc, ça va être intéressant de voir comment le Congrès réagit aux injonctions qui viendront de la Maison-Blanche. Est-ce qu'ils tiennent le coup ou est-ce qu'ils s'écrasent, si je puis me permettre?
Philippe Moreau-Desfarges.
Cet homme est plein de contradictions parce que d'un côté, il est le produit de la télévision, son émission Le Pro, et de l'autre côté, il n'a pas eu l'attitude classique américaine, c'est-à-dire le sourire. Les Américains sont souriants, le sourire, la séduction, le charme. Et on a l'impression que Trump, dans sa cérémonie d'investiture, n'a pas voulu tout jouer sur le sable, mais sur le dire « je suis un chef ». Probablement, d'ailleurs, il y a deux éléments. Il y a certainement une volonté de s'affirmer, de se montrer qu'on est le chef, mais peut-être aussi une certaine anxiété d'assumer cette fonction très difficile, parce que ça va être une fonction extrêmement difficile. Comme disait Obama, « enfin, je vais pouvoir dormir enfin, ». Trump, il ne pourra plus dormir.
Ouais, justement, et comment on passe justement d'une politique à faire des tweets, 330 tweets durant l'investiture, vraiment l'exercice du pouvoir, l'exercice de l'État. Mmh. Évidemment, on va suivre ça, bien entendu. On reviendra sur la politique étrangère. Obama qui va pouvoir dormir. Obama, qui maintenant se repose en Californie avec Michelle Obama. Il est parti donc sur encore l'appareil Air Force One, justement. Il était à la cérémonie d'investiture de Donald Trump. Et juste après avoir quitté donc la cérémonie d'investiture, il a retrouvé un certain nombre de ses partisans. Il a dit « Je ne serai pas très très loin ».
C'est juste une petite virgule dans l'histoire qui va se poursuivre. Et nous espérons que nous allons pouvoir poursuivre cette aventure avec vous tous. J'ai hâte de voir ce que vous ferez ensuite. Et je vous promets que je serai là avec vous.
Voilà, je serai là avec vous. Et d'ailleurs, sa dernière conférence de presse, c'était mercredi. Il avait adressé une sorte de mise en garde donc à Trump. Il n'entend pas se mêler du jeu politique normal, mais il ne restera pas silencieux si certaines lignes rouges sont franchies, les valeurs fondamentales de l'Amérique, immigration, liberté de la presse, droit de vote, etc. Comment est-ce qu'il pourrait poursuivre l'aventure ou pas, Laurence Nardon, Barack Obama ?
Il va donner son avis un peu comme un Lionel Jospin chez nous, parce que
je voudrais dire... je sais pas si c'est le bon exemple, hein.
Il a un peu disparu
Lionel Jospin, hein.
il s'est posé quand même comme excusez-moi.
Non, je crois que c'est pas le bon exemple. En 2002, il a dit j'arrête la vie politique et finalement il a complètement été enterré.
OK, cet exemple me vient à l'esprit, oui. Parce que je voulais dire quelque chose à propos d'Obama, c'est qu'il faut pas évacuer sa responsabilité dans l'élection de Donald Trump.
D'accord.
C'est-à-dire que son bilan notamment sur les questions raciales, sur les questions d'inégalité économique et d'image un peu élitiste qu'il a pu donner, à mon avis, ne sont pas pour rien dans le succès et l'arrivée au pouvoir qui est quand même, très inquiétante de Donald Trump.
Édouard Ducuet, journaliste américain.
Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et en plus, la tradition américaine, encore une fois, c'est que les anciens présidents s'étaient. Il pourra dire quelque chose de temps en temps, mais à mon avis, certainement pas tout de suite. Et par la suite, c'est un ancien président, ça fait pas bon ménage tout ça, qui va commencer à critiquer Trump peut-être. Maintenant, je pense qu'il faut laisser la place à quelqu'un d'autre, d'autres personnes, une nouvelle génération dans les partis démocrates. Donc je ne pense pas qu'il fera grand chose.
Et sa parole pourrait être entendue. Il est encore populaire au moment de partir.
Franchement, ce qui a été dit, c'est un ancien président. Non. Je crois que, le défi que va rencontrer Trump, qui était le défi de Clinton, le défi d'Obama, ce sont les classes moyennes américaines. Les classes moyennes américaines s'appauvrissent. Or, on voit bien que cet appauvrissement des classes moyennes américaines est dû à des facteurs extrêmement profonds, de la transformation économique, de la mondialisation, etc. Et de ce point de vue-là, Trump va probablement décevoir. Il ne peut que décevoir son électorat. Donc, il va y avoir une difficulté. À nouveau, il va être devant la même épreuve de vérité d'une certaine manière qu'Obama, c'est-à-dire cette désillusion des classes moyennes.
Voilà, en tout cas, son premier mandat ne fait que commencer. On verra ce qu'il fera de la politique étrangère, justement, les relations avec la Russie. Relations conflictuelles d'ores et déjà avec l'Europe. On va se retrouver avec Laurence Nardon, Philippe Moreau-Desfarges, Édouard Ducuet dans un instant. C'est le jour dans le monde consacré à Donald Trump. Inauguration, installation, investiture. Voilà, c'était vendredi soir avec le bal Melania et Donald.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
7 jours dans le monde pour revenir sur l'actu internationale de la semaine sur BFM Business, à la télé, à la radio et gros plan évidemment sur l'événement mondial, l'investiture de Donald Trump vendredi soir. Donald Trump désormais 45e président des États-Unis. C'est fait. On continue d'en parler évidemment avec les meilleurs spécialistes. Il y a Laurence Nardon qui dirige le centre États-Unis de l'IFRI, le journaliste américain Eduardo Cué et puis Philippe Moreau-Desfarges qui vous propose la géopolitique pour les nuls, l'histoire du monde pour les nuls. Alors la politique internationale, pas tellement présente dans le discours d'investiture, qui s'était vraiment concentré, Donald Trump, sur l'interne justement, America First, sur les emplois, sur les élites également, rendre le pouvoir au peuple. Il y a une petite mention, c'est l'idée de vaincre le terrorisme islamisme, avec nos partenaires. Voilà, il s'est quand même ouvert un moment pour dire voilà, il n'était peut-être pas forcément tout seul. La politique étrangère de Donald Trump, elle va ressembler à quoi justement? Parce que on en parlait il y a quelques instants avec notamment Laurence Nardon, quelques contradictions qui commencent à apparaître au sein de la nouvelle équipe, notamment avec Rex Tillerson qui va diriger la diplomatie ou le général Mattis qui va diriger la défense. Prenons des exemples, quand on sait que Donald Trump veut se rapprocher de Moscou, Tillerson et Mattis disent clairement Poutine, la Russie, c'est un danger pour les États-Unis. Divergence sur l'OTAN, dont Trump considère l'organisation obsolète. Non, c'est un pivot essentiel, disent les autres. Divergence également sur le nucléaire iranien, le changement climatique, la capitale d'Israël également. Elle va ressembler à quoi? C'est encore le flou, cette politique étrangère, ou pas, Philippe Moreau-Desfarges?
Si on suit le discours de Trump, c'est une rupture historique. C'est une rupture historique. Depuis la Seconde Guerre mondiale et depuis les deux guerres mondiales, les États-Unis avaient considéré que la paix dans le monde, plutôt la prospérité des États-Unis, dépendait de leur pénétration des marchés et de la paix du monde. Donc la prospérité américaine ne se séparera pas de la prospérité internationale. La paix américaine ne se séparera pas de la paix mondiale. Et Trump est en train de rompre avec cela. Quand il dit « America first », c'est-à-dire « je vais ignorer le monde ». Et par honorant un homme comme Rex Tillerson, qui va être le nouveau secrétaire d'État, cet homme, évidemment, ne peut pas raisonner comme ça. Il a été le patron de la Standard Oil. Il sait très bien que la Standard Oil, c'est une entreprise mondiale. Donc comment va-t-il surmonter cette contradiction ? Mais si Trump adopte cette politique, c'est une rupture historique par rapport aux États-Unis. Et ça veut dire que les États-Unis, quelque part, ne se perçoivent plus comme la première puissance du monde. C'est quelque part une politique de repli, donc de renfermement sur soi, donc de déclin quelque part.
Politique isolationniste assumée, Laurence Nardon.
Oui, effectivement, Trump, je suis tout à fait d'accord avec Philippe, Trump a un projet isolationniste de repli nationaliste, sauf en cas d'agression. Alors là, il a pointé le terrorisme islamique. C'est un jacksonien, hein, il faut défendre le clan. Et donc, quand le clan est attaqué, rappelez-vous, 49 morts dans cette discothèque à Orlando cet été, c'est une vraie attaque. Eh bien, il faut y aller à fond. Et donc, il a pointé un danger principal, c'est le terrorisme islamique, en le nommant, ce que ne faisait pas Obama. Hein. Et donc, isolationnisme, mais défense vigoureuse quand on perçoit une vraie...
Une menace à l'intérieur.
Voilà. Mais je voudrais ajouter quelque chose à ce que disait Philippe, c'est que ce déclin, enfin ce choix de se retirer des affaires du monde, qui est effectivement la position de Trump, pas celle de ses conseillers, mais la position de Trump, à mon sens, elle était déjà plus ou moins entamée par Obama, qui s'est fait élire en 2008 sur un projet également de retrait, et qui s'est un peu moins occupé... qui a été moins interventionniste, il faut détailler.
Contraint forcé, il est obligé d'y revenir à un moment.
Ce qui est quand même extrêmement frappant ces derniers mois, c'est le fait que la Russie prenne la main complètement avec l'Iran et la Turquie sur les affaires syriennes. Il y a eu ces conférences et ces débats de ces pays sur la question
syrienne,
extrêmement
importante. Russie, Turquie, Iran qui règlent les affaires de la Syrie.
Les États-Unis n'étaient pas là.
Et ne parlons pas de l'Europe.
Évolution.
Oui. Édouard Ducu, journaliste américain.
Il y a une grande différence quand même, parce que Obama, la retraite était militaire. C'était ça, essentiellement. Il voulait ramener les troupes d'Afghanistan et d'Iran, d'Irak à la maison. C'était plutôt militaire, tandis que Trump, c'est beaucoup plus que ça, c'est économique. Il va à l'encontre du monde tel qu'il est aujourd'hui et qui ne peut pas changer. Il va contre la mondialisation. Moi, j'étais frappé, par exemple, il parle des voitures allemandes. Savez-vous que BMW, la plus grande usine, se trouve aux États-Unis. Donc, c'est pareil avec le Mexique. Les États-Unis exportent une quantité vers le Mexique pas possible. Donc, le Mexique pourrait prendre des mesures de rétorsion. Il essaye d'ignorer le monde tel qu'il est. C'est ça qui est dangereux.
Si vous voulez, la grande différence entre Obama et Trump, c'est qu'Obama, quelque part, est un universaliste qui comprend que les États-Unis ne peuvent plus être le gendarme du monde. Donc, il prend acte de la diminution de la puissance américaine, mais il reste dans une optique universaliste. C'est le discours du Caire. Oui. Trump n'est pas dans une optique universaliste. Trump, c'est un nationaliste et il rejette le monde. Et c'est là où il y a une rupture impressionnante. Obama, il cherche à trouver un équilibre entre l'universalisme et le réaménagement de la puissance américaine.
Laurence Nardon.
Oui, je suis d'accord qu'il y a une rupture de sens, une rupture de nature dans le projet de Trump par rapport à celui d'Obama, mais ce retrait américain était déjà engagé. C'est juste ce que je veux dire.
Alors,
maintenant, faudra voir ce que ça donne avec ses conseillers, effectivement.
Et qu'est-ce que ça va donner, justement ? Ça va être quoi, l'état des relations avec Moscou, dans Bild, interview sur laquelle on va revenir dans un instant, parce qu'il tacle, il tense l'Europe, notamment Madame Merkel. Main tendue à Moscou, voyons si nous pouvons faire de bons accords avec la Russie. Je pense que l'armement nucléaire doit être sensiblement réduit, ça en fait partie, et il ne cache pas son admiration vis-à-vis de Poutine. Alors que Tillerson dit, les États-Unis ne seront probablement jamais amis avec la Russie, c'est un danger russe. Qu'est-ce que va faire Donald Trump, alors, vis-à-vis de la Russie et vis-à-vis de l'OTAN également, organisation jugée obsolète?
Trump, il y a quelque chose qui est aussi préoccupant chez Trump. Trump, il ne voit pas ce que sont les rapports de force. Dans les rapports de force internationaux, il faut toujours montrer qu'on est le plus fort. Donc, dans le dialogue entre Trump et Poutine, Poutine va dire, tu es mon ami, bien sûr, mais tu dois me montrer que tu me considères comme mon ami. Donc tu vas payer, tu vas payer. Alors je sais pas comment il va payer, mais il va devoir non seulement reconnaître la Russie comme un partenaire égal. Et là, souvenez-vous des propos d'Obama. Obama disant la Russie, elle n'est pas l'égale des États-Unis parce que économiquement, elle ne passe pas loin. Et Trump va être très, très vite dans des positions assez difficiles parce que il y a toujours ce rapport de force. À nouveau, les relations internationales, on fait pas des deals. On peut faire des deals, mais comme dit Trump, mais il y a des affaires de principe. Il faut montrer qu'on est le plus fort.
Et Laurence.
Justement, moi, j'ai l'impression de ce que j'ai vu de la biographie de Trump, qu'il est lui aussi pas mal dans le rapport de force. Alors là, il tend la main à Poutine. Enfin, les deux hommes se sont pas encore rencontrés, mais enfin, ils sont envoyés des messages par tweet ou par médias interposés effectivement d'ouverture et de main tendue.
Sympathie.
Effectivement, dès qu'ils vont se rencontrer et que les relations vont commencer à devenir sérieuses, le rapport de force va s'installer entre ces deux personnages extrêmement dominants. Extrêmement inquiétant l'un et l'autre, et je pense que la lune de miel va pas durer, parce qu'effectivement ça va être qui est le plus fort de nous deux. Exactement. Et je pense que les deux seront assez agressifs. Enfin, c'est éventuellement un peu dangereux d'ailleurs.
Et puis il y a la question de l'OTAN également. Trump parlant d'une organisation obsolète, et c'est vrai que au moment où il a été élu et pendant sa campagne, il considérait que certains pays européens notamment ne faisaient pas assez en matière de budget militaire, et disant clairement si un jour, enfin je simplifie, hein, si vous en faites pas assez, comptez pas sur moi pour venir vous aider. Est-ce que les Européens ont des raisons ou pas d'être inquiets des velléités de Donald Trump, non pas de se désengager de l'OTAN, c'est pas ça la question, mais enfin en tout cas d'en faire moins et de ne pas forcément jouer la solidarité. Édouard Ocuet.
Oui, ils ont raison d'être inquiets. Ça aurait été beaucoup mieux que Trump ne dise pas tout ce qu'il a dit sur l'OTAN, par exemple. Moi, je comprends pas du tout pourquoi il a fait ça, mais je pense aussi qu'il pourra pas faire ça. Il pourra pas simplement.
On a l'explication. C'est-à-dire, il veut payer que pour les États-Unis. Il veut plus payer pour les autres.
Vous savez, c'est un argument américain.
America first.
Qui date des années 60 avec le sénateur Fulbright qui était à l'époque le chef du comité des Sénats pour les relations extérieures, très puissant. Ça fait des années que les Américains demandent aux Européens de payer plus. Ah bon, maintenant peut-être qu'ils vont finir par les faire, mais c'est pas nouveau. Mais il peut pas se désengager de l'OTAN.
Si, Eduardo, il y a deux choses de nouvelles. D'abord, les États-Unis ont changé. Les États-Unis ne sont plus cette puissance qui a cette confiance en elle-même qu'elle avait auparavant. D'une part, les États-Unis ont changé, ça c'est clair. Et puis le monde autour d'eux a changé. Donc, je vous rappelle que dans les relations internationales, il y a aussi les engrenages. Le discours de Trump, il va à un moment donné en être prisonnier. Il peut en être prisonnier.
Alors, l'Europe, justement, on y vient avec cette interview en début de semaine dans The Times et dans Bild, la presse allemande. Hein, bien entendu, c'était pas innocent, bien sûr, hein, de la part de Trump, qui braque les Européens, clairement. Angela Merkel, elle a fait une erreur catastrophique avec les réfugiés. Il y a eu un plaidoyer pro-Brexit. Il voit d'autres Brexit, d'ailleurs, à l'intérieur de l'Europe. Il ne s'est pas embarrassé de précautions de langage. Et on a vu Paris, Bruxelles réagir vivement aux propos pro-Brexit. L'Allemagne également, l'Europe a son destin en main, disait la chancelière donc Angela Merkel. Et puis François Hollande, il a réagi toujours sur l'Europe.
Elle se déterminera en fonction de ses intérêts et de ses valeurs. Elle n'a pas besoin de conseils extérieurs pour lui dire ce qu'elle a à faire. Nous sommes suffisamment nombreux à l'intérieur de l'Europe pour savoir comment trouver les compromis et faire les choix.
Ouais, là, l'Europe n'a pas besoin de conseils venus de l'extérieur. Est-ce que Trump pourrait être un ennemi de l'Europe, Philippe Moreau-Desfarge, Eduardo Cuet, finalement? Et quelle peut être la réaction des Européens? Est-ce qu'il y aura un bouclier anti-Trump? Là, quand on écoute Hollande, l'Europe a toutes les armes pour. Je suis pas sûr que l'Europe soit terriblement unie.
Hélas, oui, c'est ça qui est terrible. Ouais. Quand un homme comme Trump dit quelque chose, ça a un sens. Il est prisonnier de ses mots. Et deuxièmement, il faut rappeler que, quelque part, l'unification européenne, c'est un enfant des États-Unis. Ce sont les États-Unis de l'après-guerre qui ont voulu cette construction européenne, qui ont poussé la France et l'Allemagne à se réconcilier. Et là, c'est une rupture majeure. Et je répète que le danger, c'est l'engrenage. C'est qu'à un moment donné, on peut dire rien ne va changer, et puis on s'aperçoit qu'on est pris dans un engrenage. Et les paroles de Trump créent des engrenages redoutables.
Peut-être que les paroles de Trump vont faire que finalement, les Européens vont se unir.
Ah, peut-être.
Finalement, oui. Ils vont créer une défense commune. Ça fait 40 ans qu'on en parle, on ne le fait pas. Donc, est-ce que Trump n'est pas le meilleur ami de l'Europe, quelque part? C'est-à-dire qu'il faut que l'Europe... Oui, l'Europe n'a pas besoin de conseils de l'extérieur, mais il faut s'unir quand même. Ah, il faut créer une véritable Europe. Pour l'instant, on ne le voit pas. Donc, on verra.
Laurence Dardon, entre Berlin, dont la politique d'immigration est critiquée, hein, la politique des migrants est critiquée, et Londres, qui choisit le Brexit, le hard Brexit, c'était aussi l'un des moments forts de la semaine, avec la déclaration de Theresa May, il a choisi son allié. C'est Londres, c'est la Grande-Bretagne, c'est le Royaume-Uni.
Pas forcément, parce qu'en fait, il a pas vraiment tendu la main à Londres non plus. Il est pour le Brexit dans le.
Il a tendu la main à Londres dans le sens où il veut un accord de libre-échange, un accord commercial avec le Royaume-Uni.
Oui, mais enfin, il a plutôt manifesté son approbation du Brexit comme procédure de démembrement de l'Union européenne, parce que il trouve ça. Très bien. Enfin, je suis pas sûre qu'il ait des sentiments très très développés sur cette question. J'aimerais bien partager votre optimisme sur l'Europe. Effectivement, le fait que les États-Unis que l'administration Trump se désintéresse de l'Union européenne pourrait pousser les Européens à monter en puissance. La France et l'Allemagne notamment, mais. Enfin, oui, pourquoi pas, mais on sent quand même qu'il y a une dynamique plutôt négative en ce moment, malheureusement.
Philippe Mourdefar, la même semaine, on a la déclaration très forte de Theresa May.
Oui, oui.
Pour sortir vraiment, pertes et fracas de l'Union européenne. Et puis l'investiture de Trump. Vous faites un rapport, un lien entre les deux personnages, ces deux informations?
Bien sûr, je fais un lien entre les deux. C'est vrai que le Brexit et l'élection de Trump, c'est lié. C'est la remise en cause de l'ordre international. Laurence Dardon a totalement raison. Ça se passera mal entre Washington et Londres. Parce que, comme toujours, les États-Unis ont toujours été très durs avec le Royaume-Uni. Quand on fait l'histoire des rapports entre les États-Unis et le Royaume-Uni a toujours voulu une relation spéciale avec les États-Unis. Mais de l'autre côté, les États-Unis ont dit, le Royaume-Uni, oui, c'est une vieille dame, et une vieille dame qu'on maltraite souvent. Donc, Theresa May va être déçue. Elle va être déçue. On va voir ce qui va se passer, mais elle va être déçue. Vous voyez, l'idée du Brexit dur, c'est un pari très audacieux. Alors, quel est le sens de ce pari, on peut en débattre, mais c'est un pari très audacieux.
Un mot, Laurence, parce que je voudrais qu'on aborde dans un instant, quid aussi du Proche-Orient, de l'Iran, de la Chine peut-être.
D'accord, un mot sur le hard Brexit que propose Theresa May. Je me demande pour ma part si c'est pas un pari extrêmement sournois de la part du Premier ministre britannique, parce qu'en proposant un Brexit très dur aux citoyens britanniques, finalement c'est le meilleur moyen qui continue à changer d'avis. On voit que l'opinion britannique est en train de changer d'avis sur ce Brexit. Beaucoup d'entre eux commencent à penser que c'est un pari dangereux, et en proposant quelque chose de très très dur, finalement peut-être qu'un retournement d'opinion serait possible.
C'est trop tard.
Bon, Trump, on y revient dans un instant dans 7 jours dans le monde, bien entendu, donc sur BFM Business, à la télé, à la radio, toujours avec Laurence Dardon, avec Eduardo Cué et Philippe Moreau-Desfarges.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Oui, 7 jours dans le monde, à quoi va ressembler le monde justement? Eh bien, depuis l'arrivée au pouvoir, c'est effectif, depuis vendredi soir, de Donald Trump, donc nouveau président des États-Unis. Oui, autre dossier chaud, puisqu'on a abordé il y a un instant l'Europe, la Russie, c'est le Proche-Orient. Le Proche-Orient, et on sait que Donald Trump est très pro-israélien, il va nommer donc un ambassadeur américain très pro-Israël, il voudrait déménager l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, dans une ville dont la moitié est toujours occupée par les Israéliens, cette partie de la ville palestinienne, arabe, occupation jugée illégale par l'ONU. Qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que ça va changer dans le conflit israélo-palestinien à l'arrivée de Trump, Philippe Moreau-Desfarges?
D'une part, ça va le durcir encore un peu plus. Ça va donner le sentiment que l'Occident se désintéresse des Arabes. Mais déjà, on était dans cette logique. Trump va dans le sens de la politique de Netanyahu, c'est-à-dire la politique d'une forteresse israélienne au Moyen-Orient. Alors, là aussi, c'est un pari, mais un pari redoutable. C'est-à-dire, c'est un pari dans lequel, au fond, les États-Unis renoncent à être le médiateur d'une éventuelle paix entre Israël Israël et les pays arabes. Donc là aussi, Trump ne crée pas une situation de dureté, mais il l'amplifie par sa logique. Et on verra là aussi, si on veut dire, attendons 6 mois, 1 an pour voir dans quel état sera le Moyen-Orient, parce que le Moyen-Orient est déjà dans un très mauvais état.
Oui, le Moyen-Orient qui était, enfin le Moyen-Orient et puis le Proche-Orient qui était au cœur de cette conférence de Paris, sans les Israéliens, sans les Palestiniens le week-end dernier. Eduardo Cué, qu'est-ce que ça va changer la donne
hein? Je pense que ça dépendra sur l'avenir de Netanyahou, qui est maintenant dans une procédure de corruption. On verra jusqu'où ça peut aller.
Pour l'instant, Netanyahou, oui, il y a une procédure qui est lancée, mais il est réélu à chaque fois et assez triomphalement.
Hein. Oui, alors tant qu'il soit là, il n'y aura pas de paix au Moyen-Orient. C'est aussi simple que ça. Je trouve que la position de déménager l'ambassade américaine à Jérusalem, c'est 3 présidents américains qui l'ont dit et qui ne l'ont pas fait. Maintenant, est-ce que Trump pourra le faire? Je n'en sais rien, mais je suis quand même très inquiet par cette attitude pro-israélienne, pas seulement de Trump. Vous savez, le Congrès américain, la semaine dernière, a approuvé une résolution condamnant la résolution des Nations Unies. Ouais. Donc,
Laquelle résolution des Nations Unies? Et c'était une énorme surprise dans les derniers jours de 2016. Hein, le Conseil de sécurité avait condamné cette politique de colonisation donc voulue par Israël en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Et pour une fois, les États-Unis n'avaient pas brandi leur veto. Hein.
Voilà, mais pour moi, c'est un symbole de problème avec Obama que, tant qu'à faire, il aurait pu approuver la résolution, tant qu'à faire, pas seulement s'abstenir. Mais bon, ça, c'est le passé. Maintenant, je pense qu'on aura beaucoup de problèmes avec le Moyen-Orient et que la paix est de plus en plus loin.
Un mot encore sur le Moyen-Orient.
Israël s'est mis dans une politique de forteresse et de destruction de la Cisjordanie. On voit bien que les colonisations en Cisjordanie rend impossible l'État palestinien. Donc, à nouveau, on entre dans un cycle infernal et à long terme qui est extrêmement dangereux pour le Proche-Orient.
L'Iran, un an après son entrée en vigueur, quasiment jour pour jour, hein, janvier 2016, janvier 2017. Quid de l'accord donc historique hein, sur le nucléaire iranien. Est-ce qu'il est fragilisé là aussi par l'arrivée de Donald Trump donc à la Maison Blanche? Oscille à ce texte. Texte, on va le rappeler, accord signé pas que par les États-Unis et l'Iran, mais aussi par le Royaume-Uni, par la France et par l'Allemagne. Hein. Laurence Nardon.
Alors il est pas trop fragilisé dans la mesure où, comme vous le
dites, il veut le déchirer lui clairement.
C'est pas juste un accord qui engage les États-Unis et l'Iran. Il y a d'autres pays. Mais c'est un autre cas d'étude des désaccords à venir au sein de l'administration Trump.
Avec Tillerson qui lui parle de révision complète de l'accord, mais qui ne dit pas il faut le déchirer. Hein.
Oui, et d'autres conseillers, notamment Matisse, qui sont plutôt pour le laisser en place avec des contrôles renforcés. Mais au-delà de Israël-Palestine. Sur le Moyen-Orient, généralement, ce qu'on voit aujourd'hui aussi, et qui va dans le même sens d'un abandon de l'espoir dans la zone, c'est le rôle de plus en plus important de la Russie dans cette région. Russie qui est pour que l'on laisse les tyrans en place, qu'on cesse de chercher à mettre en place des démocraties. Il faut laisser Bachar el-Assad, on aurait dû laisser Saddam Hussein, on aurait dû laisser Kadhafi, parce que finalement, quand il y a des tyrans, rien ne bouge. Les sociétés sont stables. Quand on cherche la démocratie, c'est là que le chaos s'installe. C'est la vision qui vient de Moscou et à laquelle Trump semble souscrire.
Et là, c'est terrible parce que, quelque part, Trump renie l'idéal américain.
Absolument.
Qui est un idéal de diffusion de la démocratie et d'universalisation de la démocratie.
Oui. Alors, oui, Eduardo.
Oui, mais il faut reconnaître aussi que le monde, le Moyen-Orient est dans l'état dans lequel il est, justement, à cause des erreurs, comme Kadhafi, ça aurait été mieux de les laisser sur place, soyons honnêtes.
Alors, pour terminer, évidemment, tout ça est très très court. On y revient, évidemment, tout au long de 7 jours dans le monde. Oui, à propos d'hommes forts également, hein, Xi Jinping, hein, toujours à la tête du Parti communiste chinois qui est venu donner des leçons de libre-échange à Davos, donc à l'ouverture du grand forum de Davos. Là aussi, donc, Trump, il est très remonté contre la Chine, il ne s'en est pas privé, politique monétaire, politique militaire, relation avec Taïwan également. Donc, Tillerson disait, alors pour le coup, là, ils sont assez d'accord, hein, Tillerson dit, on va envoyer un signal clair à la Chine pour lui signifier que les constructions sur ces îles, vous savez, tous ces petits îlots en mer de Chine méridionale, doivent cesser. Bon, Ça va être quoi la suite?
C'est
le numéro d'effort.
La Chine va être le numéro un mondial, c'est clair. Et les États-Unis, bien sûr, c'est insupportable pour les États-Unis. Donc il y a un bras de fer qui est en train de se développer entre la Chine et les États-Unis autour de ça. Et c'est fascinant de voir Xi Jinping à Davos défendant le libre-échange au moment même où les États-Unis, le grand pays du capitalisme libéral, rejettent ce libre-échange. On voit que c'est très intéressant, mais le bras de fer va être très dur et je pense que la politique de Trump, loin de calmer les choses, va les exciter encore un peu plus.
Eduardo Cué.
Et moi, je pense que ce que Trump fait, il dit aux Chinois, c'est la fin de la récréation. Faut dire que le
Chinois... D'accord, mais il dit c'est la fin de la récréation, mais quoi, il va aller attaquer la Chine?
Non, je
si
veux
jamais
pas attaquer,
ils tombent leur drapeau sur
mais
un
mais
îlot.
Non, mais ce sont des messages qui sont envoyés. Ouais. Vous parliez tout à l'heure de rapport de force. Là, je vois un rapport de force où on dit, voilà, on va à une position extrême et par la suite, on va négocier. Moi, faut dire que la Chine, ce qu'elle fait dans la mer de Chine méridionale est complètement illégal. Point de vue international, il joue avec sa monnaie, etc., etc. Et Obama a laissé faire. Donc là, je trouve que Trump a raison.
Allez, le mot de la fin dans 7 jours dans le monde, c'est Laurence Nardon.
Et sur la Chine, il faut bien voir que Trump, comme sur le reste du monde, renie les idéaux américains parce qu'il n'attaque pas du tout la Chine sur son manque de respect des droits de l'homme. C'est absolument pas sur la table. C'est uniquement la politique financière, économique et sa présence en Chine
du Sud. Ouais, tout juste. Merci à tous, à l'IFRI à l'honneur, voilà, donc avec Laurence Nardon qui dirige le Centre États-Unis, avec Philippe Moreau-Desfarges, auteur de La géopolitique pour les nuls. Merci Eduardo Cué, journaliste américain, donc voilà, spécial Trump dans 7 jours dans le monde. On se retrouve très très vite sur BFM Business, à la télé et à la radio.